Travailleuses, travailleurs, chers amis, chers camarades, je veux commencer par évoquer la guerre en Ukraine. Les images qui nous viennent de là-bas sont glaçantes. Les bombardements, les morts, les civils terrés et terrorisés, jour et nuit. Les souffrances de millions de personnes, forcées de fuir en abandonnant tout derrière eux. Cette guerre est monstrueuse et elle suscite notre indignation et notre inquiétude aussi, parce que ces événements ne sont peut-être que les prémices d'un conflit bien plus large qui pourrait, demain, entraîner les puissances d'Europe de l'Ouest, les États-Unis et la France dans la guerre. Cette guerre nous concerne donc, bien au-delà de ses conséquences économiques et des sacrifices déjà annoncés par Macron. Et il faut réaliser que le gouvernement, l'Union européenne et tous les vagabonds que l'on entend non-stop sur les plateaux télé veulent nous embrigader moralement dans cette guerre, derrière les puissances occidentales. Eh bien, nous ne marchons pas. D'abord, nous ne marchons pas pour faire de Poutine le seul et unique responsable de la situation. Bien sûr, c'est Poutine qui a envahi l'Ukraine et fait le pas décisif d'une guerre fratricide. Et il se conduit en criminel pour les intérêts de la bureaucratie russe. Mais c'est la politique impérialiste des États-Unis, de l'OTAN et des puissances occidentales qui a fait de l'Ukraine le théâtre de leur bras de fer avec la Russie. Car qui a ceinturé la Russie de bases militaires bourrées de missiles? Qui exerce une pression constante pour que les pays voisins de la Russie adhèrent à l'OTAN? L'OTAN qui n'est pas une agence de paix. L'OTAN a été conçue au moment donc de la guerre froide pour isoler et pour affaiblir l'Union soviétique. Et lorsque l'Union soviétique en 1991 s'est disloquée, l'OTAN, elle, n'a jamais été dissoute. Alors, les cris et la fausse indignation de Biden, Macron, Johnson et des autres dirigeants des pays de l'OTAN sont insupportables d'hypocrisie. Et en plus, ils osent se poser en défenseurs de la paix. Le camp occidental, les États-Unis, l'OTAN, l'Union européenne et la France se font passer pour la planche colombe quand Poutine serait devenu un psychopathe sanguinaire. Mais quand et où les interventions des grandes puissances impérialistes ont-elles assuré la liberté et les droits démocratiques pour les peuples? En Afghanistan, au Moyen-Orient, au Sahel? Alors, Poutine mène une guerre monstrueuse, c'est vrai. Mais n'oublions pas que les fauteurs de guerre sont dans notre propre pays. Ce sont eux qui ont joué avec la peau des Ukrainiens. Et ce sont eux qui ont pris le risque de cette guerre. Cette guerre, elle ne date d'ailleurs, elle ne date pas d'il y a une douzaine de jours. En fait, depuis 2014, elle fait rage déjà dans le Donbass. Et elle a fait déjà 15 000 morts. Quand des puissances, des grandes puissances interviennent, y compris militairement, elles ne le font pas pour sauver les peuples et les dictatures. Pour sauver les peuples des dictatures ou de la misère. Elles le font pour leurs intérêts économiques et pour continuer le pillage et l'exploitation de régions entières. Alors, à l'inverse des bâtons-guerres, bien tranquilles ici, qui attisent le feu, en demandant à corps et à cri que les grandes puissances envoient des armes en Ukraine ou interviennent elles-mêmes, nous pensons que les peuples d'Ukraine et de Russie ont tout à perdre dans une telle guerre. Et il faut tout faire pour éviter un bain de sang. Il n'y a pas assez d'armes dans la région, pas assez de combattants, pas assez de morts, pas assez de nationalisme. Oh, livrer des armes, c'est une excellente nouvelle pour les marchands d'armes, pour Dassault, pour Thalès, mais sûrement pas pour les peuples qui le payent avec leur peau. Encore une fois, les grandes puissances savent faire s'entretuer les peuples, les travailleurs, les prolétaires, pour ensuite en tirer les marrons du feu. Aujourd'hui, la population ukrainienne paye le prix fort de la rivalité entre la Russie et les puissances occidentales. Elle le paye au prix des bombes, et elle le paye aussi au prix de l'exacerbation du nationalisme et du fossé de haine qui se creuse. Car ce conflit dresse les uns contre les autres des femmes et des hommes qui vivent ensemble depuis des décennies. Aujourd'hui, des familles, des amis sont déchirés et pour certains, mobilisés de force, les uns contre les autres. Ce fossé de sang va opposer deux peuples frères. Pour combien de générations? Alors, il n'y a à se ranger ni dans un camp, ni dans l'autre. Il faut défendre une autre perspective. La seule porte de sortie qui puisse garantir que le conflit prenne fin et ne recommence pas demain, c'est que les prolétaires, que les dirigeants actuels utilisent comme de la chair à canon, se retournent contre leurs propres dirigeants, contre Poutine en Russie, contre Zelensky en Ukraine et ses alliés impérialistes. Pour le moment, la population en Ukraine et en Russie est sous le choc. Mais si la guerre dure, il faut espérer que cette perspective prendra corps, portée par les travailleurs d'Ukraine et de Russie. Et cette politique, eh bien, il faut nous l'appliquer nous-mêmes, ici. Il ne faut pas faire l'union sacrée derrière Macron, parce qu'il se moque autant du peuple ukrainien que du sort des travailleurs ici. Il faut dénoncer tous les responsables, les fauteurs et les profiteurs de guerre. Et il faut affirmer la nécessité d'arracher le pouvoir aux dirigeants de ce monde capitaliste. Contre la guerre, les belles intentions pacifistes ne suffisent pas. Il faut s'organiser pour défendre la seule politique correspondante à nos intérêts, qui consiste à dire « Prolétaires de tous les pays, unissons-nous pour renverser la classe capitaliste et ses politiciens qui se mènent une guerre économique permanente et qui nous mènent à la guerre tout court. » Dont Macron répète sur tous les tons qu'ils ne sont pas en guerre contre la Russie. Mais ils le sont en réalité. Ils le sont militairement par l'intermédiaire de l'armée ukrainienne et ils le sont économiquement. Avec les sanctions contre la Russie, la guerre économique entre le camp impérialiste d'un côté et la bureaucratie russe de l'autre a franchi un nouveau cap. Mais les pays impérialistes sont aussi en guerre économique les uns contre les autres. Avec au centre de leur bras de fer la question de l'approvisionnement en gaz de l'Europe et le prix de l'énergie. Et sur cette question, on va voir le gouvernement allemand, américain, français s'opposer. On va les voir se battre les uns contre les autres. Parce que les capitalistes de leur pays, les capitalistes allemands, français, britanniques, ont des intérêts totalement contradictoires. En rebattant les cartes en matière énergétique, mais aussi en matière alimentaire, parce que la Russie, comme l'Ukraine, sont de gros exportateurs de blé, eh bien, la guerre exacerbe toute une série de rivalités dont personne ne peut encore mesurer où celles-ci nous mèneront. Mais une chose est certaine, c'est que tous les dirigeants impérialistes et la classe capitaliste feront payer les conséquences de cette guerre aux travailleurs, aux femmes et aux hommes des classes populaires. Macron et son gouvernement l'ont déjà annoncé, il y aura moins de croissance, plus d'inflation. Le choc sera aussi brutal que le choc pétrolier de 1973, comme l'a dit le ministre de l'économie, Le Maire. Et tous ceux qui ont vécu le choc pétrolier de 1973 en connaissent les conséquences. Effondrement du pouvoir d'achat, fermeture d'entreprises, plan de licenciement massif. Et alors même qu'il manque aujourd'hui de l'argent dans les hôpitaux ou dans l'éducation, eh bien il faudra aussi trouver de l'argent pour l'armée, pour les équipements de guerre, parce qu'on assiste aujourd'hui à une remilitarisation de tous les pays. Alors le message est clair. Demain, ce sera plus dur. Il y aura des sacrifices à faire. Il faudra peut-être moins se chauffer, moins se déplacer. Mais il faut l'accepter, nous disent aujourd'hui nos dirigeants. Il faut l'accepter parce que ce sont des efforts de guerre nécessaires, une juste solidarité à avoir vis-à-vis des Ukrainiens qui souffrent. Autrement dit, il faut se préparer à du sang et des larmes. Alors vous voyez, on n'est peut-être pas en guerre avec la Russie, mais on l'a compris. La guerre sociale que nous mène le grand patronat au travers des bas salaires, des retraites indignes et des conditions de travail de plus en plus dures va s'aggraver. La guerre va être un prétexte de plus pour nous imposer des sacrifices, pour faire en sorte que l'on se résigne au chômage partiel et à une paye partielle, pour qu'on se résigne aussi à cette flambée des prix et pour que l'on accepte le recul de la retraite à 65 ans. Alors tout cela doit être une raison de plus pour nous de nous préparer et de nous organiser, parce qu'il va falloir défendre nos conditions d'existence. Il va falloir s'organiser et se battre avec la conviction qu'il ne faut pas laisser notre sort entre les mains de ceux qui décident aujourd'hui de la marche du monde. Alors ces événements se précipitent et percutent la campagne présidentielle. Et ils nous rappellent combien ce petit jeu électoral est dérisoire. Alors, j'ai l'habitude de dire qu'au lendemain de l'élection présidentielle, quel que soit l'élu, nous nous retrouverons toujours confrontés au grand patronat qui décidera s'il ferme ou pas telle ou telle usine, qui relèguera les femmes dans les boulots les plus précaires et les plus mal payés. Les jeunes continueront d'être baladés de stage en contrat de qualification. Le grand patronat continuera de faire de nous des invalides et des handicapés du fait de cadences et de charges de travail toujours plus lourdes. Notre banquier décidera d'accepter ou pas le découvert ou le crédit dont on a un besoin vital. Mais maintenant, eh bien, il faut rajouter que quel que soit le président élu, la guerre continuera. Oui, la guerre et les lois capitalistes qui les engendrent continueront de s'imposer. Et elles menaceront de jeter le monde entier dans le précipice. Alors la question n'est pas quel sera le prochain président qui sortira de la mascarade électorale. La question est de savoir si les travailleurs réussiront ou non à s'organiser pour se défendre. Alors le programme que je défends, eh bien c'est un programme de lutte. C'est ma candidature est un appel à la mobilisation. C'est un appel au combat. Défendre nos conditions d'existence, notre droit à la vie, est une question de rapport de force, de grève, d'affrontements sociaux. C'est la conscience que notre sort ne dépend pas du prochain président de la République, mais de nos propres combats. Ma candidature est un appel à un vote de combativité et de conscience ouvrière, un appel à l'organisation des travailleurs derrière leurs intérêts quotidiens vitaux et derrière la perspective de changer toute la société. Menace de guerre et à toutes ses conséquences qui vont déferler, nous nous sentons désarmés, incapables de voir par quel bout prendre le problème. Eh bien, la première étape est de nous donner une politique et un parti capables de défendre et de rassembler le monde du travail autour de leurs intérêts élémentaires de travailleurs. Nous devons affirmer que le camp des travailleurs a une politique et des perspectives pour répondre aux besoins des femmes et des hommes des classes populaires. Prenez le chômage. Les politiciens de droite et de gauche se sont succédés pendant des décennies. Ils ont tous laissé le chômage et la précarité de masse s'installer et s'aggraver. Et regardez comment Macron aujourd'hui est fier de lui, parce que le nombre de chômeurs inscrits en catégorie A donc a diminué. Mais comment peut-on se réjouir d'un chiffre officiel de 3,3 millions de personnes sans aucun emploi et de 5,7 millions si on inclut les personnes qui vivotent avec quelques heures de travail? Eh bien, loin de ce mépris social, notre objectif doit être zéro chômeur. Oui, zéro chômeur, parce que pouvoir gagner sa vie est une nécessité pour tous. Et zéro chômeur, eh bien, c'est possible. C'est possible, et c'est même quelque chose de simple. Il suffit de se répartir le travail existant entre tous, sans perte de salaire, bien sûr. Mais si nous avions collectivement le pouvoir de diriger les entreprises, eh bien on commencerait par cela. On commencerait par se répartir le travail, parce que du travail, nous sommes nombreux à en avoir par-dessus la tête. Nous nous retrouvons obligés de faire des heures supplémentaires, de travailler des samedis, des jours fériés. Nous faisons le travail de deux, parce que telle ou telle personne partie à la retraite n'a jamais été remplacée, parce que l'intérimaire ou le stagiaire qui faisait le boulot est parti. Eh bien, cette charge de travail-là, il faut la répartir entre tous, en imposant des embauches. Imaginez que l'on demande au personnel des hôpitaux, des EHPAD, de l'éducation, des transports publics, d'établir une liste d'embauches dont ils auraient besoin, qui les soulagerait. Et bien on arriverait immédiatement à des centaines de milliers d'emplois utiles et indispensables à créer. Alors oui, le monde du travail a une politique à défendre en matière de chômage. C'est de répartir le travail entre tous et d'arracher la baisse du temps de travail, de façon à ce qu'il n'y ait plus aucun chômeur. Il faut travailler moins et travailler tous. Blocage des prix, baisse des cotisations sociales pour augmenter les salaires nets, suppression de certaines taxes, primes d'activité, chèques énergie. Les politiciens bourgeois se penchent sur le sort des travailleurs les plus mal payés avec une petite larme à l'œil. Et en quoi consiste leur politique ? À faire la charité. Castex a accordé un chèque inflation de 100 euros à tous ceux qui touchent moins de 2000 euros par mois. Et demain, ce sera quoi ? Un chèque pour qu'on puisse acheter notre lait, notre baguette de pain ? Mais quand on travaille, ou quand on a travaillé toute sa vie, on ne demande pas la charité pour faire son plein d'essence, pour se chauffer ou pour se loger. On veut pouvoir vivre dignement de son salaire ou de sa pension de retraite. Alors, il faut des augmentations générales, des salaires, des allocations et des pensions de retraite. Et ce ne sont pas des miettes qu'il faut, mais de véritables augmentations, de 300, 400, 500 euros par mois. Et dans cette période d'envolée des prix, eh bien, il faut remettre en avant une revendication forte du mouvement ouvrier, l'échelle mobile des salaires, c'est-à-dire l'indexation des salaires sur les prix. Autrement dit, il faut que les salaires augmentent au même rythme que les prix, au même rythme que l'inflation mesurée mois par mois et, si nécessaire, semaine après semaine. Mais il ne faut pas accepter que les étiquettes valsent sans que nos salaires augmentent de la même proportion. Tous les chefs d'entreprise ont le pouvoir de répercuter l'augmentation de leurs charges sur leurs prix, de sorte que leurs bénéfices et leurs revenus ne soient pas amputés. Les salariés, eux, n'ont pas ce pouvoir-là. Eh bien, le seul moyen de protéger un peu son pouvoir d'achat, c'est donc l'indexation automatique des salaires sur les prix, et encore une fois, sans attendre la fin de l'année. Pas à moins de 2000 euros. Eh bien oui, en effet, 2000 euros, c'est le minimum pour ne pas vivre dans l'angoisse permanente de tomber malade, de se retrouver sans voiture parce qu'elle est tombée en panne et qu'on n'a pas l'argent pour faire réparer. C'est le minimum aussi pour espérer partir un peu en vacances. Alors 2000 euros, ce doit être un minimum pour les salaires, mais aussi pour les pensions et les allocations dont vivent les travailleurs à la retraite ou en invalidité. Alors je le sais, c'est bien au-dessus du SMIC actuel, qui est à 1270 euros. Et je sais que pour beaucoup de salariés, peut-être pour certains d'entre vous, cela paraît relever du domaine du rêve, de l'irréalisable. Parce que, ça j'entends souvent, le patronat ne l'accordera jamais. Mais je tiens d'abord à dire une chose, c'est que la plupart du temps, le patronat n'est même pas prêt à accorder 50 euros d'augmentation de salaire. Même pour obtenir 20, 30, 40, 50 euros, il faut s'organiser, il faut se battre, il faut débrayer, il faut faire grève. Alors que l'on revendique 50, 100, 400, de toute façon, il faut se battre. Eh bien, il n'y a aucune raison de ne pas revendiquer ce qui nous est nécessaire pour vivre. Et nous n'avons pas à nous excuser. Nous faisons tourner la société, nous sommes essentiels, il n'y a aucune raison de nous faire petits. Si nous raisonnons en fonction de ce que le patronat est prêt à nous laisser pour vivre, nous resterons les éternels sacrifiés. Il faut raisonner à l'inverse. Nous devons être fiers de nos revendications parce que nous devons être fiers de ce que nous sommes. La société doit d'abord répondre à nos besoins de travailleurs parce qu'elle ne tient que par nous. Alors, battons-nous pour arracher ce qu'il nous faut et ce, quoi qu'il en coûte, au grand patronat. ont rejeté les revendications ouvrières, les perroquets patronaux mettent toujours en avant la PME, ou la petite entreprise en difficulté, qui serait ruinée si elle devait augmenter les salaires ou un peu embaucher. Ça leur ferait trop de charges, comme ils disent. Alors d'abord, c'est toujours une façon d'occulter la responsabilité des grands groupes dans les bas salaires. Mais quand vous travaillez chez Carrefour, avec 15 ans d'ancienneté, vous touchez 1300 euros net. Avec 30 ans, vous montez à combien? 1400. Vous êtes ouvrier à Michelin. Vous êtes à 1500 euros net en travaillant en équipe. Et il se passe quoi dans les entreprises où c'est l'État patron? Il se passe quoi dans les hôpitaux? Il se passe quoi à la poste? C'est la même chose. Et on pourrait faire le tour ici. Et il y aurait bien des témoignages de salariés qui travaillent dans des grands groupes ou alors dans des filiales dépendant des grands groupes et qui subissent les mêmes salaires indignes. Alors les petites entreprises, elles sont l'alibi. L'alibi pour nous faire taire. Pour savoir ce qu'il en est vraiment, il faut l'abolition du secret des affaires. C'est-à-dire qu'il faut donner le droit aux travailleurs d'aller voir les véritables comptabilités des entreprises. Il faut donner le droit aux travailleurs de publier, de mettre donc sur la place publique tous les contrats qui sont signés entre les grands groupes et les petites entreprises. Et là, on verrait qui se fait les marges royales. On saurait exactement où passent ces circuits de l'argent qui font que chaque année, nous, on doit se serrer la ceinture et que les milliards s'accumulent à notre pôle. Si un petit patron ne peut pas payer, il y en a d'autres au-dessus de lui. Eh bien, que le donneur d'ordre paye, que le banquier paye, que le fournisseur, que le bailleur paye. Mais la véritable démocratie, eh bien, le pouvoir du peuple, ce serait cela. Que ceux qui font tourner les entreprises sachent exactement ce qu'il en est des fruits de leur labeur. Tout le monde dit aujourd'hui qu'il faut que la parole se libère. C'est d'une hypocrisie sans nom, parce que dans les entreprises, les salariés n'ont le droit de rien dire. Et prenez le scandale des EHPAD. Combien de salariés ont été menacés, mis à pied, licenciés, pour avoir dénoncé les dysfonctionnements et la maltraitance dans les EHPAD? Cela fait des années qu'ils prennent des risques, qu'ils témoignent sous anonymat pour tirer justement la sonnette d'alarme. Le secret, l'omerta que le grand patronat impose dans les entreprises lui permet de mentir, de cacher ses méfaits et ses crimes. Il lui permet de cacher précisément l'argent qu'il y a dans ses coffres forts. Eh bien, libérons la parole, oui. La parole de tout le monde. La parole aussi des salariés, des comptables, des commerciaux. Et cela passe par la levée du secret professionnel, la levée du secret commercial et l'arrêt de toute poursuite pour diffamation dès que l'on parle de harcèlement ou de salaire de misère. Et au sujet du contrôle ouvrier, je veux revenir encore une fois sur la guerre en Ukraine et sur les sacrifices que le gouvernement va vouloir nous imposer au nom de l'union sacrée des efforts de guerre. Trotsky écrivait déjà en 1948, je le cite, « La guerre est une gigantesque entreprise commerciale, surtout pour l'industrie de guerre. » Ben voilà, tout est dit. Mais rajoutons aussi, puisque dans cette guerre en Ukraine, le pétrole et le gaz sont aussi devenus des armes de guerre. Le secteur énergétique est lui aussi devenu une gigantesque entreprise commerciale, une source d'enrichissement et de spéculation formidable pour la grande bourgeoisie. Parce que c'est cela qu'il y a derrière les augmentations du prix à la pompe. Aujourd'hui, le gaz et le pétrole continuent d'être vendus sans qu'il n'y ait d'embargo. L'essence que l'on nous vend à la pompe a été achetée il y a plusieurs mois. Rien ne justifie les hausses que l'on connaît pendant la nuit. Et on se réveille avec 10 centimes de plus dans la figure. Tout ça ne s'explique que par la spéculation. Alors, quand la guerre éclate, oui, il devient vital pour le monde du travail, au sens propre du terme, d'imposer son contrôle sur la marche de l'économie. comme le disait encore Trotsky, les capitalistes sont les premiers patriotes et les principaux fauteurs de guerre. Et il ajoutait, le contrôle ouvrier sur l'industrie de guerre est le premier pas dans la lutte contre les fabricants de guerre. Eh bien, il faut désormais populariser aussi cette idée, le contrôle ouvrier. Et contrairement aux capitalistes, les travailleurs n'ont rien à cacher, au contraire. Ils ont tout intérêt à dévoiler les véritables enjeux de la guerre. Alors, pour s'imposer au sacrifice que l'on va nous imposer demain, notre mot d'ordre doit être confiscation des bénéfices de guerre et expropriation des entreprises travaillant pour la guerre comme celles travaillant pour l'énergie. Cette guerre, elle remet aussi au premier plan la question de l'accueil des réfugiés. Parce que oui, elle force, là, aujourd'hui, des millions de femmes et d'hommes à partir de chez eux. Eh bien, c'est une raison de plus pour nous de réaffirmer notre solidarité de classe et de redire bienvenue aux réfugiés et bienvenue à tous les réfugiés, y compris à ceux que l'on appelle les migrants. On a entendu ces dernières semaines des politiciens dire que les Ukrainiens seraient des immigrés de qualité et qu'ils feraient des profits de la France. C'est un mépris sans nom pour les travailleuses et les travailleurs immigrés, exploités sans scrupules et sans lesquels pas un hôpital public, pas une usine, pas un chantier du bâtiment ne fonctionnerait. Pour nous, les travailleuses et les travailleurs, quel que soit le pays dont ils sont issus, font partie de notre camp, le camp des travailleurs. Leurs intérêts, leurs besoins sont les nôtres. Et comme on le voit aujourd'hui avec ce qui se passe en Ukraine, oui, notre monde peut vite s'effondrer sous un déluge de bombes. Eh bien, la liberté de circulation et d'installation doit faire partie des droits que l'on doit arracher pour tous les travailleurs de cette planète. Et c'est un droit dont nous-mêmes, nous pourrons peut-être avoir besoin aussi demain. Et j'insiste là-dessus, c'est un droit, bien sûr, qu'on revendique pour les travailleurs. Pour les travailleurs, précisément parce que les frontières, elles ne sont là pour les plus pauvres. Pour les travailleurs en réalité, quand on a un portefeuille bien garni, quand on est millionnaire, passer une frontière est une simple formalité administrative. Les plus riches et millionnaires, ils sont toujours accueillis à bras ouverts. Vous aurez remarqué, jamais on a traité un émir du Qatar de migrant. Pour eux, les hôtels 5 étoiles sont toujours grands ouverts. Alors oui, il faut revendiquer la liberté de circulation et d'installation. Et se préparer à accueillir les femmes et les hommes chassés de chez eux par les guerres ou par la misère, les accueillir comme des sœurs et des frères. Parce que la plupart travailleront demain à nos côtés, sur les lignes de découpe, dans les abattoirs, sur les chantiers, dans les hôpitaux. Ils seront nos sœurs et nos frères de souffrance. Et si l'on sait nous adresser à eux, eh bien, ils seront nos sœurs et nos frères de combat. Et nul doute qu'avec leur expérience, avec le courage dont ils ont fait preuve justement pour émigrer, eh bien, ils seront des forces plus que précieuses au combat que nous avons à mener contre nos exploiteurs. La campagne est marquée par un climat réactionnaire, pour ne pas dire raciste. Parce qu'au lieu d'avoir un candidat d'extrême droite, on en a deux. Et encore, je suis gentille. Je reste sur les deux, disons, qui revendiquent cette étiquette-là. Hein, mais pour tous ceux qui ont essayé de voir un petit peu le débat Zemmour-Le Pen hier soir, hein, je pense que... Zemmour-Pécresse, hein, ils ont vu que, voilà... Ils étaient vraiment sur le même. Bon, j'ai une condition atténuante parce que moi j'ai essayé, j'ai tenu qu'une minute. Mais restons-en au match Zemmour-Le Pen et à leur petite, course à l'échalote. Le Pen s'en prend à l'islamisme, et bien Zemmour s'en prend à l'islam. Le Pen flatte les policiers. Zemmour leur promet le droit de tuer sans craindre la justice. Le Pen veut renvoyer des étrangers qui restent un an sans emploi. Zemmour les renverrait au bout de 6 mois. Quand Le Pen... Alors, Pécresse, j'ai pas écouté, mais elle doit pas être loin. Bon, promis, je la rajoute dans mon prochain vidéo. Quand Le Pen parie sur un processus de dédiabolisation et travaille à se rendre plus humaine, Zemmour a choisi de déverser sa bile raciste et d'organiser toute sa campagne autour de son délire du grand remplacement. Et si Zemmour pose en intellectuel, c'est en historien révisionniste qui explique que la colonisation a été positive, que le capitaine Dreyfus était peut-être coupable, que la Révolution française était en complot, et que Vichy a protégé les Juifs français, dont 24 000 pourtant sont morts dans les camps nazis après avoir été livrés par la police de Pétain. Eh bien, je peux vous dire qu'en matière d'histoire, mes élèves lycéens d'Aubervilliers en savent bien plus que ce charlatan-là. Pour le grand patronat. Elle a toujours ardemment défendu la propriété capitaliste. Elle a toujours justifié l'exploitation. Si Marine Le Pen daigne agiter quelques mesures sociales, c'est uniquement pour essayer de capter une partie de l'électorat ouvrier, écœuré, désorienté par la gauche. Mais Zemmour, lui, n'en prend même pas la peine. Au moment où les profits et les dividendes explosent, ce monsieur propose de baisser les impôts des plus riches. Ben oui, ils n'en ont pas encore assez. Et puis, lui aussi, il veut repousser la retraite à 64 ou à 65 ans. En fait, Zemmour nous rappelle que tous les politiciens anti-immigrés sont toujours, d'abord et avant tout, anti-ouvriers. Alors, dans les classes populaires, ceux qui sont attirés par les sirènes nationalistes se trompent de camp. Ce n'est pas le fait d'être considéré comme de bons Français qui leur permettra de trouver un meilleur travail. Et le fait d'avoir un prénom sonnant comme il faut aux oreilles de Zemmour, cela ne les empêchera pas d'être exploités et d'être méprisés. Et que les travailleurs immigrés aient moins de droits ne leur en rajoutera pas à eux. Je veux rajouter aussi que Le Pen et Zemmour étaient deux admirateurs du régime de Poutine. Eh bien, regardez où nous mène ce qui exacerbe le nationalisme, l'identité nationale, à des guerres. L'unique antidote à la poussée d'extrême droite, c'est que les travailleurs renouent avec leurs valeurs politiques. La conscience de constituer le camp de ceux qui triment dur pour gagner leur vie, quelle que soit leur origine, leur couleur de peau et leur croyance. Les xénophobes et les racistes mettent en avant la préférence nationale et disent « les Français d'abord ». Alors soyons nombreux à leur répondre, les salaires d'abord, les emplois d'abord, les retraités et les jeunes des classes populaires d'abord, le camp des travailleurs d'abord. Dans cette campagne, nous voulons conforter le monde du travail dans leurs intérêts. Mieux, nous voulons affirmer qu'ils sont capables de diriger la société et qu'au pouvoir, ils feraient 1000 fois mieux que les dirigeants actuels. Oui, ils feraient mieux, parce que leur premier souci, ce serait d'organiser la société pour la majorité de la population, et pas pour une bande de parasites capitalistes. Oui, seuls les travailleurs sont capables de remettre la société sur ses pieds. Quelle que soit la direction où l'on regarde, la santé, les inégalités, l'environnement et la crise climatique, le nucléaire, les relations internationales, la crise économique, les dirigeants du monde planifient une seule chose, la fuite en avant. Et vous savez, il est significatif. Alors qu'on n'a jamais autant parlé de planification écologique, de voir que tous les gouvernements aujourd'hui sont en train de planifier quoi ? Leur réarmement. Tout cela, c'est le produit d'une société où seul compte la course au profit, la rentabilité, la concurrence capitaliste. Il faut réaliser que les capitalistes dévoient les immenses possibilités scientifiques et techniques. Regardez ce qu'ils font des banques. Les capitalistes les ont transformées en salles de casino. Les travailleurs au pouvoir les collectiviseraient, ils les fusionneraient, ce qui permettrait d'orienter les capitaux là où les besoins vitaux sont à satisfaire. Le logement, les transports publics, les EHPAD, que certains capitalistes ont transformés en machines à cash. Les trusts qui contrôlent le secteur énergétique, les Total, Exxon, EDF, Engie, sont une vingtaine. C'est pas beaucoup, une vingtaine. Bien, ce sont ces trusts qui nous prennent en otage, en orientant le marché selon leurs profits. C'est aussi pour ça que les prix d'essence explosent. Avec les travailleurs au pouvoir, ces trusts seraient fondus en un seul. On coordonnerait leur activité, leur plan d'investissement. On pourrait mettre en commun les compétences de leurs ingénieurs, le savoir-faire de leurs ouvriers et techniciens pour produire au moindre coût environnemental et humain. Prenez les satellites. Les capitalistes les utilisent pour spéculer sur le cours des matières agricoles. Les travailleurs au pouvoir les utiliseraient pour planifier les cultures, selon la qualité des terres, le climat, la géographie. Les fameux GAFAM, utilisés aujourd'hui pour enrichir quelques milliardaires, et puis aussi pour nous fliquer. Eh bien, ces fameux GAFAM pourraient se transformer en fantastiques outils d'organisation, de recensement, de coordination et de démocratie. Le progrès pour nous, ce n'est pas de détruire les multinationales et les liens économiques, sociaux et humains tissés à l'échelle mondiale, mais c'est d'en faire des biens communs à l'humanité tout entière. Oui, de l'humanité tout entière, parce que raisonner à l'échelle d'un seul pays est complètement dépassé. La pandémie, mais aussi la crise climatique, montrent que nous sommes interdépendants à l'échelle de la planète. Aucun pays ne peut s'en sortir seul. Il n'y a plus de solution à l'échelle nationale. Il faut aller vers une coopération fraternelle de tous les peuples. Alors bien sûr, aujourd'hui, tout cela, c'est difficile à imaginer avec la classe capitaliste au pouvoir, avec ses guerres, avec ses rivalités. Mais ce n'est pas de la politique fiction. Ce n'est pas de la politique fiction parce qu'en réalité, les moyens matériels, humains et financiers, nous les avons à portée de main. À condition, encore une fois, que tous ces moyens ne soient pas entravés par la propriété privée et par le droit de faire des profits avec la vie humaine. À condition que la société ne soit pas dominée par la classe capitaliste. Alors, mettre réellement au service de l'ensemble de la société tous les moyens dont elle dispose en expropriant la classe capitaliste doit être notre perspective politique. Que les travailleurs prennent le pouvoir doit être notre perspective. Le communisme doit être notre perspective. Alors vous le voyez, ce ne sont pas les idées ni les perspectives qui nous manquent. C'est un parti pour les incarner et les faire vivre dans les classes populaires. Le sentiment que tous les politiciens sont pourris parce qu'une fois au pouvoir, ils retournent leur veste, a conduit beaucoup de femmes et d'hommes des classes populaires à rejeter la politique, toute la politique. Les partis de politiciens professionnels comme les partis de militants. Eh bien, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Que les partis bourgeois soient à l'image du système qu'ils défendent, c'est-à-dire des ramassis d'arrivistes, n'a rien d'étonnant. La seule conclusion à en tirer, c'est que les travailleurs qui ont pour perspective de changer la société doivent s'organiser dans leur propre parti. Pas un parti comme les autres partis, pas un parti de politiciens professionnels, mais un parti de salariés, de chômeurs, de retraités, de jeunes révoltés. Un parti composé et dirigé par des travailleuses et des travailleurs, capables de mettre en avant au jour le jour les intérêts des travailleurs contre la politique de la bourgeoisie. Il faut un parti qui ne vivent pas d'élections et qui ne cherchent pas des places dans les institutions bourgeoises, mais un parti construit pour encourager les exploités à se défendre. Un parti capable à la fois de se battre pour des augmentations du salaire, tout en défendant la perspective qu'il n'y ait plus de classe sociale. Un parti capable de se battre pour des améliorations des conditions de travail tout en militant pour la suppression de l'exploitation de l'homme par l'autre. Il faut un parti construit pour mener tous les combats contre l'exploitation jusqu'au combat pour la prise du pouvoir. C'est ce parti que nous pouvons construire. Chacun d'entre nous peut jouer un rôle dans la construction de ce parti. Nous sommes tellement habitués à ce que les riches commandent et monopolisent le droit de diriger que nous ne réalisons pas que nous pouvons le faire nous-mêmes. Mais les décisions, ils peuvent les prendre. Si nous ne sommes pas là pour faire le travail et pour transformer leurs décisions en réalité, il ne se passe rien. C'est nous qui mettons en musique tout ce qu'ils décident, d'où leur conseil d'administration. Et c'est à nous, en fait, à nous, travailleurs, que l'on demande de faire l'impossible. Alors il faut réaliser que l'utilité sociale, c'est nous qui l'avons, c'est nous qui l'incarnons. Les actionnaires et le grand patronat n'ont aucun rôle dans la production. D'ailleurs, la plupart du temps, ils ne savent même pas où ils ont placé leurs capitaux. Leur utilité sociale est nulle. Autrement dit, c'est la bourgeoisie qui dépend de nous pour tout, y compris pour se faire à manger et garder ses enfants. Nous lui servons à tout, elle ne nous sert à rien. Alors soyons conscients du pouvoir que nous avons de faire les choses nous-mêmes. Soyons conscients du pouvoir que nous avons de nous gouverner nous-mêmes. Bien sûr, ce pouvoir, notre pouvoir reste à construire. C'est un pouvoir qui ne peut être que collectif. Autrement dit, notre pouvoir, c'est notre organisation. Et sur le chemin de la conquête de ce pouvoir, eh bien, ce qu'il faut construire, c'est un parti. Et cette campagne, eh bien, elle doit lui permettre de se renforcer. Le combat politique que nous menons à l'occasion de cette présidentielle montre à tous les travailleurs qu'il y a un camp, un parti auquel ils peuvent se rattacher. Un parti petit, certes, mais un parti sur lequel ils peuvent compter. Alors, quel que soit le poids de ma candidature dans les urnes, la politique que nous portons dans cette campagne, eh bien, elle est importante pour tous les travailleurs qui cherchent le moyen de se défendre. Et elle compte pour eux. Elle encourage tous ceux qui essaient de s'organiser. Et c'est cela le plus important. Alors, le 10 avril prochain, faites entendre le camp des travailleurs. En votant pour moi, vous direz que les salaires doivent passer avant les dividendes, que les pensions doivent passer avant les cours boursiers, que les emplois doivent passer avant les grandes fortunes. Vous direz que l'argent doit aller aux services utiles à la population, aux hôpitaux, aux maisons de retraite, aux écoles et aux universités, aux logements et aux transports publics. En votant pour moi, vous rejetterez le racisme et le nationalisme, ces idéologies qui dressent les travailleurs les uns contre les autres. Contre les guerres, vous affirmerez que le sort des peuples ne doit pas rester entre les mains des dirigeants de ce monde impérialiste, de leur gouvernement, de leur diplomatie, de leurs états-majors. En votant pour moi, vous direz « Ah bah, le système capitaliste qui ne profite qu'à une minorité de privilégiés !» Et je veux dire à tous ceux qui ne supportent plus l'ordre social et qui s'apprêtent peut-être à s'abstenir parce qu'ils n'ont aucune illusion dans ce cirque électoral, je veux leur dire, ne restez pas seuls avec votre colère. Ne restez pas isolés, impuissants et invisibles politiquement. Rejoignez-nous dans le vote et dans le parti qui incarne une politique pour changer toute la société. Ce ne sont ni les idées. Bien sûr, nous sommes à contre-courant. Nous sommes à contre-courant et nous le resterons tant qu'il n'y aura pas une remontée des luttes collectives. Et c'est d'ailleurs l'absence de ces luttes qui permet aujourd'hui aux préjugés, aux diversions et aux démagogues de faire leur beurre en montrant du doigt les boucs émissaires. Mais même à contre-courant, nous pouvons avancer. Nous allons porter les intérêts du monde du travail et nous trouverons de l'écho dans les entreprises et dans les quartiers populaires. Alors il faut mettre toutes nos forces dans cette campagne pour nous faire entendre. Aidez-nous dans cette campagne. La possibilité de discuter, de faire réfléchir sur où va cette société. Et bien cette possibilité-là, c'est vous qui l'avez. Parce que oui, vous pouvez prendre le temps nécessaire pour convaincre, le temps nécessaire pour faire réfléchir. Moi, sur les plateaux, dans les courtes interviews que je peux faire, je n'ai pas cette possibilité. Mais vous le pouvez en discutant avec votre famille, vos camarades de travail, vos voisins, vos amis. Pour que cette campagne soit réussie, eh bien, il faut que ce soit la campagne de chacun d'entre nous, il faut que ce soit une campagne militante. Alors essayons de regrouper autour de ma candidature tous ceux qui sont révoltés, tous ceux qui ne se résignent pas à un ordre social aussi inégalitaire, injuste que stupide, et aidez-nous à construire ce parti qui nous manque tant. Nous sommes minoritaires, mais dès qu'une épidémie de grève se déclenchera, ce sont nos idées qui aideront les travailleurs à aller le plus loin possible dans le combat. Et ce combat, il peut et doit aller jusqu'à renverser le capitalisme et son cortège d'aliénation et de barbarie.